Aujourd'hui, je termine donc la lettre aux Colossiens. C'est moi, Nicolas Grubetti. J'ai la chance et la responsabilité de vous partager ce message de Colossiens à la suite de Luc, et je suis très honoré. Vous savez, ce n'est pas une petite tâche d'apporter la parole, c'est une responsabilité et aussi un honneur. Et vous savez, c'est marqué ici, vous avez tout pleinement au Christ. Et comme vous avez pu le suivre depuis ces trois derniers dimanches, dans le cœur de Paul, dans cette lettre aux Colossiens, c'est de rappeler qu'on a tout en Christ. Et c'est ce que j'ai mis, Jésus, il est le commencement et la fin. Je voulais juste vous rappeler ça. Il est le commencement et la fin de chaque chose que vous vivez. Il n'y a rien qui se fasse sans lui et qui se termine sans lui. Il est le commencement et la fin de toute chose que vous vivez. Luc nous a parlé de découvrir la volonté de Dieu afin de grandir en maturité, de connaître Christ, de connaître Christ. Et dans cette connaissance, d'être enraciné dans cette connaissance. Je les ai biffés parce qu'aujourd'hui, on va parler de vivre en Christ. Lorsqu'on est enraciné comme un arbre solide, alors on ne bouge pas. Et lorsqu'on est enraciné en Dieu, qu'on vit justement dans l'esprit, comme disait mon frère, lorsqu'on est dans sa présence, alors on peut pousser. Alors l'arbre peut pousser et porter des fruits qui sont bons, des fruits qui plaisent à Dieu. Et ces fruits, c'est le produit de ce que Dieu fait en nous. Et c'est ce qui nous permet de vivre en lui. C'est les fruits qu'il veut créer en nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous préparer à recevoir ce message de vivre en Christ. En Christ, ça veut dire quoi? Est-ce que, comme cet arbre, est-ce que cet arbre est vraiment enraciné? Alors est-ce que ce qu'il produit est vraiment de Christ? On va parler de ça. Mais avant de parler de ça, voilà l'idée principale de ce message. Paul nous invite dans cette dernière partie à vivre une vie pour Christ et lui ressembler et de faire les choses qui plaisent à Dieu. J'ai marqué sur ma feuille, et je voulais vous lire, connaître Christ et sa volonté sont des choses extrêmement importantes, mais le représenter dans nos paroles et nos actions, c'est notre appel. C'est notre appel. Et comme disait aussi Monis, il va partir pour former les personnes afin qu'elles puissent ressembler à Christ et être des gens qui portent des fruits. Et c'est ça notre appel à tous et à toutes. Chacun, qui que vous soyez, c'est votre appel. Aujourd'hui, on vit dans une société de marques. Des marques, on parle de différentes marques. Vous les voyez ici, j'en ai mis quelques-unes. Voilà, vous pouvez choisir celle que vous préférez. H&M, Lacoste, Canon, Nikon. On parle de Nespresso, on parle de BMW, Audi, Mercedes, Nivea, Pampers, etc., etc., Gillette. Je ne sais pas si pour vous, ça a l'air de quelque chose d'anodin. Est-ce que je vous mets quelque chose? Vous êtes là, mais de quoi il me parle? Des marques? Moi, ça ne me dit rien du tout. Qui c'est qui est familier avec les marques? Qui c'est qui a une marque ici qu'il aime bien? Je pense que tout le monde a une marque qu'il aime bien. Et j'ai choisi de prendre l'exemple de Apple. J'ai choisi de prendre l'exemple de Apple. Alors, soit on est pour une marque, soit on est contre une marque. Et j'ai choisi de prendre une marque qui fait aussi bouger un peu les informaticiens, les geeks informatiques qui sont là. Non, Apple, c'est pourri, il faut prendre PC. Vous savez, quand on est... Je vois Florian, ouais! Vous savez, quand on est avec une marque, et spécialement ces marques un peu Apple, on va penser Apple, on va, ouais, non, moi j'ai mon Apple, j'ai mon iPhone, ah non, mais j'ai mon iPad, tu vois, c'est encore mieux, puis mon Mac, quand même, il a une carte graphique qui est différente. Et en fait, tout ce qu'on fait va être là, non, mais tu sais, c'est mieux que PC, mais oublie quoi, ton PC, il sert à rien. Pense Apple. Et les gens vont dire, mais moi j'aime Apple, keep calm and love Apple. Il y avait tellement, j'ai cherché, je voulais juste regarder, il y a énormément de choses sur Apple. Vous pouvez trouver de tout, des t-shirts, des chaussettes, tout. J'ai juste tapé tatouage Apple, j'en ai vu des dizaines et des dizaines, mais regardez, cette personne sur son bras a marqué « Think different ». Elle a mis une pomme qui signifie la marque Apple. Elle pense différemment. Et vous savez, je voulais commencer par cette illustration parce que c'est important. Vous savez, ces marques qu'on porte, qu'on communique, deviennent notre identité. Pour certains, ça devient vraiment leur identité. Mais qu'en est-il? Mais qu'en est-il, mesdames et messieurs, qu'en est-il de la marque Christ? De la marque Christ, et je ne parle pas des bijoux, bien entendu. Je parle de Jesus Christ, Jésus-Christ, le Christ. Qu'en est-il de cette marque? Je vous demande, qu'en est-il de cette marque? Est-ce que vous la représentez là où vous allez? Vous faites, ouais, moi j'ai Christ. Moi, je suis Christ. Moi, je porte Christ. Je sens Christ. Je parle Christ. Est-ce que vraiment, c'est la marque que vous représentez? je vous pose la question. Dans cette lettre et dans cette dernière partie, comme le disait aussi Walter, il y a beaucoup dans... La lettre aux Colossiens est riche. Et quand vous devez travailler un message sur un livre, ce n'est pas facile, il faut trouver quels sont les éléments qu'on veut partager, que Dieu souhaite partager. Et chacun, si c'était à vous de faire la lettre de Colossiens, vous la feriez peut-être différemment que Luc l'a fait, que moi je la ferai aujourd'hui, mais c'est la richesse aussi. Encore une fois, la richesse de nos différences. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler de quelle est justement cette représentation de Christ. Lorsqu'on va dans les endroits où on se déplace, est-ce qu'on représente Christ ? Est-ce qu'on représente Christ ? Et Paul souhaite justement, dans cette dernière partie, nous amener à dire, est-ce que je vis Christ ? Est-ce que vraiment je vis Christ ? Est-ce que tout ce que je fais respire Christ ? Et il nous encourage, il encourage les Colossiens à regarder à Christ dans tout ce qu'ils font et laisser mourir les désirs de la chair, laisser mourir ce qui était ancien. Il l'a aussi choisi, on est ressuscité, on laisse les choses du passé, on ne regarde plus. C'est ce que Paul nous encourage à faire. D'une certaine manière, et là je lis, il leur dit, vous connaissez Dieu. On a parlé, Luc nous a parlé, vous connaissez Dieu, vous avez grandi en maturité et vous êtes enraciné en lui. Alors, délaissez vos péchés, délaissez vos péchés. C'est ce que Paul vient nous dire, délaissez vos péchés. Ne regardez plus à vos péchés. Ne regardez plus parce que c'est de toute façon plus ce qui nous attire. N'arrosez pas les mauvaises plantes. Délaissez vos péchés. Dans la lecture de Colossiens 3, les versets 1 et 2, je vais lire quelques versets. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Un peu plus loin en rouge, on ne voit pas très bien, je vous le dirai, je suis navré. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. J'ai mis en rouge parce que c'est ce qui n'est pas bien, j'ai mis rouge, on biffe, comme à l'école, c'est pas bon. Alors vous ne voyez pas très bien, mais c'est dans les versets 5 et 8 de Colossiens 3. Paul revient avec beaucoup d'insistance, on voit juste avant, on dit, vous qui êtes ressuscité, alors cherchez les choses d'en haut. Vous qui êtes ressuscité. On a parlé, on a une vie nouvelle. Est-ce que vous en êtes conscient de ça ? Est-ce que vous êtes conscient que lorsque Jésus rentre dans notre vie, c'est une nouvelle vie qui naît ? Alors bien sûr, on parle justement de bébé dans la foi, on parle qu'il y a toute une grande maturité, on en a parlé. C'est vrai, lorsque Dieu rentre dans notre vie, lorsqu'on accepte Dieu, nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes nés de nouveau. Et ça demande une croissance. Et c'est ce que, justement, Paul explique aux Colossiens. Cette croissance, on la pratique dans la connaissance de Dieu, en lisant la parole. C'est ce qu'il nous explique. Mais il dit, délaissez ces choses, parce que Dieu nous donne une nouvelle nature. Et j'ai choisi de vous lire, je n'ai pas marqué, mais je voulais vous lire, parce que c'est un verset qui est pour moi très très cher à mon cœur. C'est le verset d'Ézéchiel dans 36-26. Je vais le lire, il est très court. « Je, Jésus, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Lorsque nous rencontrons Jésus, qui que vous soyez, quelque chose se passe. Il y a un nouveau cœur, il y a des nouveaux désirs, il y a un nouveau regard. Ce que vous regardiez avant, ce que vous faisiez avant est complètement différent. Est-ce que c'est le cas ? Dites-moi oui ou non. Parce que si ce n'est pas le cas, on va demander à Dieu que vous le rencontriez réellement. Parce que c'est le cas. Moi, je peux le témoigner. Lorsque Dieu est rentré dans ma vie, lorsque je suis revenu à Dieu et que j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre. Alors, c'est vrai, mon regard s'est détourné des choses que je regardais avant. Que ce soit les jalousies, les autres choses, comme on les a notées, que ce soit l'impudicité, que ce soit les mauvaises paroles. Je ne dis pas que j'en dis plus, mais je sais que mon regard se détourne. Quand je dis quelque chose, aïe, 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 non, ce n'est pas bon. On se détourne parce qu'on a un nouveau cœur et un nouveau regard. Regardez au bon endroit. Nous recevons un nouveau regard. Tout ce que nous faisions auparavant est mort. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Est-ce que vous réalisez que le péché n'a plus de pouvoir ? On croit qu'il a du pouvoir, mais il n'en a plus. Parce que vous cherchez à faire ce que Dieu veut. Même lorsqu'on tombe, comme je le disais il y a quelques semaines, la volonté, c'est qu'on se relève, parce que c'est ce que Dieu a mis en nous. Notre regard n'est plus orienté vers les mêmes choses. Nous ne cherchons plus à satisfaire notre ancienne nature. Nous cherchons à satisfaire les choses qui plaisent à Dieu. C'est ce que je vous disais dans cette dernière partie. Paul nous encourage à faire et à pratiquer, à cultiver les choses que Dieu aime, les choses que vous aimez, parce qu'il a déposé en vous sa nature. Alors attention, et j'ai envie d'imager ça avec ces paires de lunettes 3D. Lorsque Dieu dépose sa vie dans nos cœurs, alors notre regard change. On voit en 3D, mais surtout on voit ce que Dieu regarde. Tout d'un coup, je vois le cœur de Moni. Waouh ! Je ne vois plus. Ah non, ça, j'aime pas. Ah non, mais puis, quand il parle comme ça, j'aime pas. Non, je vois. Waouh ! Wow. Je vois le cœur de Dieu. Je vois avec les yeux de Dieu. Et en fait, les choses du passé, je ne les regarde plus. Parce que je vois avec son regard. Je vois avec son regard. Ainsi, Paul rappelle aux Colossiens qu'ils ne marchent plus dans la même direction. Ils ne regardent plus au même endroit. Leur vie terrestre n'est pas alimentée par les désirs terrestres, mais alimentée par les désirs célestes, les désirs de Dieu. Et j'ai marqué, nouvelle identité égale nouveau désir égale nouveau regard. Je me suis fait un petit égal. Nouvelle identité égale nouveau désir égale nouveau regard. De cette manière, alors que nous fixons Jésus, alors que nous regardons avec son regard, encore une fois, je regarde et je dis, et là je vois, ah la méchanceté, je ne les regarde plus. Et Luc nous parlait de cet arbre, et j'aimerais prendre cette même aussi illustration de l'arbre. Imaginez l'arbre, cet arbre pourrait s'appeler mauvaise parole, celui-là c'est mensonge, celui-là c'est cupidité, etc. Mais lorsque vous avez les lunettes, lorsque vous regardez, lorsque vous avez saisi cette nouvelle nature, vous ne les regardez plus. Et tout comme l'eau, vous, en fait, vous ne les arrosez plus, parce que vous ne regardez plus ça. Parce qu'il y a la nouvelle nature, il y a l'amour, la compassion, et on va en parler aujourd'hui, de cette nature de Christ, parce qu'on vit dans sa nature. Alors en fait, ces choses-là, vu qu'on ne les arrose plus, elles meurent. Vous savez bien que lorsqu'on n'arrose pas un petit arbre, il va mourir, n'est-ce pas ? En tout cas, montrez-moi si ça marche, si votre arbre, chez vous, vos fleurs, sans les arroser, elles tiennent, alors bravo. Vous avez des fleurs magiques, ça doit être des fleurs en plastique. Mais sinon, ce n'est pas possible. Ainsi, très simplement, notre regard se porte sur Christ. Parce que c'est la seule chose qu'on voit. On voit Christ partout. Lorsqu'on voit, on voit ce que Dieu fait. On voit le cœur de Dieu dans chacun. Parce qu'on est fait à son image. Parce qu'on est Christ. Parce que Christ est en nous. Alors on voit Christ. Alors notre regard ne se pose plus sur le péché. Notre regard ne se pose plus sur le péché. On peut cultiver ce que Dieu aime. On peut délaisser le péché. On peut délaisser justement, comme je l'ai redit, l'impudicité, l'impureté. Les mauvais désirs, la cupidité, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés, etc. Ces choses-là, on ne les regarde plus, elles dessèchent, elles périssent, il n'y en a plus. On ne les retrouve plus dans votre jardin. À ce moment-là, vous portez Christ. Et à ce moment-là, votre œil est propre. Votre œil est propre. Et je voulais, pour encore une fois, bien vous rappeler que votre œil est propre. Dans Matthieu 6, 23, vous le lisez ici, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alors que vous revêtez la nature de Christ, vos yeux deviennent propres. Vous voyez ce qui est propre. Vous voyez ce qui rend gloire à Dieu. Alors vous pouvez aller aux bons endroits. Alors notre regard guide nos pensées, nos actes, notre attitude. Et tout ce que nous faisons représente Jésus. À ce moment-là, on peut cultiver le bon fruit. À ce moment-là, on peut cultiver le bon fruit, le fruit qui plaît à Dieu, le fruit qui plaît à Dieu. À ce moment-là, lorsque vous avez compris que votre nature ancienne n'est plus celle-là, vous pouvez cultiver le bon fruit, parce que ça devient naturel. On lit Colossiens 3, 12. « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. » Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez l'amour, qui est le lien de la perfection. Je pourrais les relire ces passages parce qu'ils sont forts. On parle vraiment ici du caractère de Dieu. C'est magnifique. Jésus n'est pas allé à la croix pour nous laisser sans solution, mesdames et messieurs. Sinon, franchement, ça serait un peu difficile. Jésus n'est pas allé à la croix pour nous laisser comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est pas possible. Jésus est allé à la croix pour nous donner une espérance fondée sur sa connaissance. Il nous a laissé son modèle qui nous permet de le revêtir lui-même par son esprit qui vit en nous. Ce n'est pas par nos forces, on le sait. Il nous revêt de sa nature afin que nous puissions le refléter. Et ainsi, comme nous l'avons vu ces derniers dimanches, il faut le connaître et être bien enraciné. Bien enraciné, afin que nous puissions refléter une image limpide de notre Dieu. lorsqu'on est bien enraciné, lorsqu'on ne cultive plus ces choses, lorsqu'on est bien enraciné en Dieu, alors toutes ces choses périssent et on peut vraiment le refléter. On peut refléter qui il est, simplement, sans force, simplement. De cette manière, nous cultivons les fruits qui plaisent à Dieu. Et là, mesdames et messieurs, comme je marquais avant, on a parlé de très très beaux, très très belles caractéristiques que vous pouvez lire encore ici. Sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, se supporter les uns les autres, se pardonner, s'aimer. Waouh, waouh, waouh. Et merci à Monique qui a dit ça, et ça me touche que lorsqu'il est venu, il a dit « j'ai senti cet amour ». Et moi, je trouve que c'est beau, parce que vous savez quoi ? Moi, je veux voir, et je vous le dis, et je prierai, et je continuerai de prier. J'aimerais voir une église où les gens, lorsque vous venez, vous aimez votre voisin. Lorsque vous venez, vous vous intéressez à la personne qui est derrière vous, qui est là peut-être depuis 3 ans, mais vous n'aviez pas demandé à cette personne, mais qui es-tu, comment vas-tu ? Parce que c'est justement ce qui est dans le cœur de Dieu. Les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de se supporter les uns les autres, de se pardonner, et en dessus de tout, de s'aimer. Je reste ici, et je veux parler du packaging du chrétien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du packaging du chrétien. Je n'ai pas la table, mais je vais les mettre ici. Vous voyez, j'ai une brique de jus d'orange. Pour que vous les voyez, j'ai voilà, 2 briques de jus d'orange. Pas mal, non ? Jus d'orange et tout. Quand je regarde 100% de fruits, après ils mettent énergie, protéines, ils vont nous marquer vitamines, etc. Mais c'est la même chose, le packaging du chrétien. Voilà, si on disait, ah, ici c'est chrétien, c'est marqué chrétien dessus, jus de chrétien. Jus de chrétien. Et ça serait marqué, alors on pourrait marquer, ah, compassion, ok, aimer, amour 100%, ok, pas mal, bonté, générosité, pardon, ah, il y a aussi des doses de pardon, etc. Waouh, c'est beau quoi, ça donne envie de boire. Du moins, c'est la théorie, c'est à quoi nous devrions être. Mais c'est ce que nous sommes appelés à être. On voit ça, c'est waouh. Et en fait, lorsqu'on ouvre et qu'il y a vraiment la nature de Christ, et il y a ça, il y a son caractère, alors, magnifique. C'est exactement à quoi, c'est exactement ce qui est marqué. Bon, juste que ça y ressemble pas, on voit pas tous ces nutriments, mais c'est ça. Ça a le goût de jus d'orange, il y a les vitamines, je me sens déjà mieux. C'est parfait. Magnifique. Mesdames et messieurs, c'est le packaging du chrétien. Vous savez, je vous dis quelque chose de vrai. Je pense que toutes les personnes ici qui ont eu déjà cette aventure et cette réalité, lorsque vous dites à vos frères, à vos collègues, je ne dirais pas à vos frères et sœurs, mais quoique, vous pouvez aussi le dire, mais je suis chrétien. Qu'est-ce que les gens vont imaginer de vous, tout de suite ? Ils vont imaginer ça. Ils vont imaginer, waouh, ah, il est chrétien. Ah, est-ce que vraiment il y a toutes ces recettes en lui ? Est-ce qu'il y a vraiment tous ces produits ? Lorsque vous dites à quelqu'un, vous êtes chrétien, il imagine ça. Il imagine que vous avez ces vitamines, cette compassion, que vous vous supportez. Lorsqu'on vient à l'église, moi j'aimerais voir des belles bouteilles de jus d'orange, j'aimerais voir du jus de chrétien avec tout ça. Moi j'aimerais représenter cette brique avec tout ce qui est marqué dessus, mais lorsque je verse, c'est exactement la même chose. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors que vous êtes bien enraciné, là je remets l'arbre que Luc avait choisi, alors que vous êtes bien enraciné dans la parole, vos racines sont pleines de vie. Alors ce fruit peut venir, ce fruit qui a du goût, le fruit qui est la connaissance de Dieu, alors qu'il est en vous, alors que vous êtes en lui, alors le fruit devient le vrai fruit. Alors que je dis, ça c'est du jus d'orange, quand je verse, il y a du jus d'orange. C'est bien, non ? Alors quand je vois jus de chrétien, est-ce qu'il y a vraiment toutes ces caractéristiques qui sont les caractéristiques de Christ ? Parce que Christ est en nous. Je vous rappelle, vivez en Christ, Christ est en nous. Et on appelle cela les fruits de l'Esprit, vous savez ? Le fruit de l'esprit. Je ne les ai pas notés, mais c'est à peu près ce que j'ai marqué tout à l'heure. C'est à peu près cela, avec l'amour, la joie, la patience, la douceur, la compassion, la maîtrise de soi. C'est ça, le fruit de l'esprit. Lorsqu'on est enraciné en Christ, lorsqu'on voit cet arbre va être... Il ne porte pas des fruits, celui-là. Mais si on prenait un oranger, alors oui, lorsqu'il est bien enraciné, les oranges vont pousser et ça sera vraiment des oranges. C'est ça à quoi on est appelé à être. Des vrais fruits. C'est ce fruit qu'on regarde. Avec ses lunettes, on arrose le bon arbre, alors il pousse. Lorsque vous faites face à une situation qui est difficile, où ça va vous demander de l'amour, de la compassion, tous les jours ça se passe à l'église, quoi, tous les dimanches. Ah, il y a lui, là, il m'embête, et machin. Combien de fois vous faites face à une situation où vous devriez partager, que ce soit même dans la préparation de la louange, ou oh, c'est 9 heures, ils ne sont pas encore là. Ah, et puis ça, je suis irrité, je suis en colère. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? À ce moment-là, est-ce que vous revêtez vos lunettes ? Est-ce que vous revêtez vos lunettes ou pas ? Quel est l'arbre que vous allez arroser? Est-ce que lorsque vous allez verser ce verre à la personne qui va arriver, il y aura vraiment ce jus? À ce moment-là, mesdames et messieurs, vous savez quoi? À ce moment-là, moi aussi, je dois juste faire ce pas de foi et dire, Seigneur, moi, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Mais toi, tu vis en moi par ton esprit, tu le fais. Vous savez, c'est comme Pierre. Pierre, lorsqu'il a entendu Jésus sur ce lac où il y avait c'était la tempête, vous croyez vraiment que c'était facile pour lui? Oh ouais, bien sûr, je vais sortir de là-bas. Non, pas du tout. Ça vous demande la foi de croire que c'est Jésus qui va faire ça, qui va produire ses caractéristiques en vous. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, moi le premier, ce n'est pas ça qui est en moi. La nature, ce n'est pas ça. Mais on a délaissé notre ancienne nature. On l'a dit, on a délaissé notre ancienne nature. Mais il faut faire ce pas de foi. Essayez, et vous verrez, ça va marcher. Si quelque chose ne se passe pas de la manière qu'on veut, lorsque quelqu'un vous passe devant vous en voiture, mais d'une manière vraiment qui n'était pas appropriée, on a le choix de s'énerver ou de dire, bon, ben, pardonne-lui, Seigneur. On a le choix. Votre nature a envie de dire, mais casse-toi. Et puis c'est vraiment des choses, alors pour ceux qui conduisent, mais c'est vraiment quelque chose qui monte vite. Et là, alors tout d'un coup, là, la nature de Christ, alors là, elle s'enlève. Hein. Là, on enlève les lunettes, on les balance. Tiens, j'en veux pas. Mais il vous suffit, mesdames et messieurs, de juste faire ce pas et dire, ok, Seigneur, c'est pas moi. Parce qu'il n'y a plus de moi, c'est toi. Alors réponds à ma place. Et il le fait. Et on parlait de l'Église persécutée. J'avais envie de vous donner un témoignage. Je ne l'ai pas écrit, mais il y en a tellement. Vous savez, ces hommes et ces femmes qui vivent pour Christ, vraiment qui vivent pour Christ dans les pays où, ici, nous, on peut dire Jésus, on peut taper des mains, faire du bruit. On n'a pas de souci, en tout cas pour le moment. Dans beaucoup de pays dans le monde, ce n'est pas le cas. Lorsqu'ils se retrouvent, déjà le fait de se retrouver, c'est une mission. Mais vous savez, ces personnes... Il y avait une amie qui est venue avec qui j'ai fait l'école, elle est venue pour parler aux jeunes il y a quelques semaines. Elle a aussi travaillé pendant une année avec une ONG aussi qui s'occupe des chrétiens persécutés. Elle nous partageait le témoignage d'un homme qui a vécu pour Christ à fond et sa femme s'est fait assassiner parce qu'il continuait de parler de Christ, il a été menacé. Et à partir de là, il a dit, mais qu'est-ce que je fais? Il est parti du village à un moment, mais Dieu a mis dans son cœur, il faut que tu y retournes. Et il est continué, il a dit, c'est pas grave, même si ma femme est décédée, elle a été assassinée, pour Christ, à cause, entre guillemets, de Christ, parce que les gens disaient, mais c'est pour Christ, je veux pas que tu parles de... Il est reparti, il a dit, je les aime et je veux continuer de parler de Christ. Je veux continuer de vivre en Christ. Je veux continuer d'être enraciné dans sa parole et continuer de le laisser être qui il est à travers moi. Mais il a dû faire ce pas de foi et dire, Seigneur, moi, j'arrive pas. Combien de fois? Mais c'est difficile de pardonner. Le pardon est un exemple qui est, je pense, très, très bon. C'est très difficile de pardonner. Peut-être pardonner quelque chose de simple, ça va. Ouais, il n'est pas venu à 9h05, il est venu à 9h10, ok, je te pardonne. Mais pardonner à quelqu'un qui a tué votre femme, votre mari, votre enfant, allez-y, mesdames et messieurs, c'est pas possible. C'est seulement Christ qui peut le faire. Mais il le fait en vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vivre ça. Et vous savez, ces personnes, pourquoi elles le font? Parce qu'elles vivent en Christ. Mais elles vivent pour Christ. Et ce dernier point qui m'amène gentiment sur la fin de ce message, on vit en Christ, mais on pourrait dire vivre en Christ, c'est quoi? C'est vivre pour Christ. Est-ce qu'on vit pour Christ uniquement? Est-ce qu'on vit pour Christ uniquement? Est-ce qu'on vit vraiment pour Christ? Et quoi que vous fassiez, donc là, voilà, comme je disais, moi j'ai choisi, je regardais, je vous dis, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais leur dire, Seigneur, et quels sont les versets que je dois garder? Vous savez, quand Luc, il a terminé au Colossiens 2, j'avais encore Colossiens 3 et 4, et il y a plein de versets, et après, j'étais là, je priais, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois leur dire? Et très simplement, alors que je relisais Colossiens 3, 17 et 23, 24, j'étais là, c'est ça que je dois leur dire. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Un petit peu plus bas, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Alors que Paul arrive sur la fin de cette lettre, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'était, il rappelle les Colossiens, il dit, voilà, vous êtes enracinés, vous connaissez Christ, vous faites ça, vous ne cultivez plus les mauvais arbres, vous cultivez le bon fruit. Alors de ce bon fruit va naître une attitude d'amour, une attitude justement où on sent cet amour, merci, Et on va le sentir encore plus jour après jour dans cette église. Amen. Et moi, j'y crois. Et moi, je crois, les personnes qui viendront ici diront, waouh, c'est la première fois que je viens ici, mais j'ai senti l'amour. Les gens sont venus vers moi, se sont intéressés à moi. J'ai senti l'amour. Mesdames et messieurs, c'est ça l'église. Mais on peut le vivre seulement si on a décidé de vivre pour Christ. Et ma question à vous, justement, alors que je disais la fin de ce passage, c'est sommes-nous réellement en train de vivre en Christ? Vivons-nous réellement pour Christ? Est-ce qu'on vit vraiment pour Christ? Car tout comme Jésus vivait en son Père et uniquement pour sa volonté, il nous est également demandé la même chose. Et là, je pars sur un passage que je voulais justement vous rappeler. Ce sera le dernier passage biblique. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Deux versets extrêmement profonds, extrêmement, pas prophétiques dans le sens, mais extrêmement importants de comprendre l'unité de ce verset. Jésus nous révèle ici, je suis un avec mon Père, je suis un avec mon Père. Et il le dit, et c'est très important de réaliser que, il était un. Nous avons connu Dieu parce que Jésus était en lui. Il dit que Jésus a fait uniquement ce que le Père souhaitait. On le sait, non? Vous connaissez ce passage. Et c'est pour ça qu'on l'a connu. Parce que lui faisait uniquement ce que son Père disait. Il était en son Père. Tout ce que Jésus faisait était ce que son Père voulait qu'il fasse. C'est tellement important. Là, Jésus est en train de prier la prière pour ses disciples, de la prière d'envoi pour le monde. Il dit, c'est pour les disciples et ceux qui viendront après, qui croiront en leurs paroles, pour nous tous. Vous vous rendez compte qu'ils disent qu'ils soient un comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Parce qu'on a cru en Dieu, parce que Jésus était en Dieu, parce que Jésus faisait ce que le Père demandait à chaque instant. Il était en lui. Tout ce qu'il faisait représentait Dieu, représentait son Père. Tout. Est-ce que c'est notre cas? Notre unité avec Christ et notre attachement à lui va influencer tout ce que nous allons vivre. Si nous sommes unis à lui et vivons pour lui, alors nous pourrons être unis les uns aux autres avec lui et le faire connaître. C'est un peu pour résumer cette pensée que si on est unis à lui, comme lui est uni à son Père, alors on pourrait être unis les uns aux autres. On parle de corps, on parle d'unité. C'est ça que Dieu souhaite, qu'on soit unis à lui, afin qu'on puisse être unis les uns aux autres et qu'on puisse se faire connaître. Si on n'est pas unis à lui et qu'on n'est pas unis les uns aux autres, on ne peut pas le faire connaître. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que lorsqu'on vient ici, si on dit « Ouais, moi j'aime Jésus et tout », mais qu'on n'est pas unis à Dieu, mais ça veut dire qu'on n'est pas unis à notre frère et notre sœur, ça veut dire qu'on n'a pas justement cette compassion, ça veut dire qu'on n'a pas cet amour pour notre frère et notre sœur, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment le faire connaître. Parce qu'on dit « C'est par l'amour qu'ils se partagent les uns aux autres que je serai révélé, qu'ils me connaîtront ». Parce que Jésus était amour, parce que Jésus est amour, parce que Dieu est amour. Alors il reflète exactement son Père. Alors il reflète exactement son Père. Est-ce que vous reflétez? Est-ce que vous vraiment vous le reflétez? Il n'y a qu'une seule chose qui importe Dieu. Que nous soyons unis à lui et que nous vivions en lui et pour lui. Afin que tout soit un. Afin que tout soit un. Nous pouvons très facilement s'égarer de cette vérité. Nous pouvons revêtir l'habit de Christ, agir selon sa nature. Et là, je vais prendre ma deuxième brique de jus d'orange. Vous ne l'aviez peut-être pas vue, peut-être vous l'aviez vue. Et maintenant, j'ai envie d'illustrer quelque chose aussi qui peut-être nous ressemble des fois. On peut dire Christ, on peut aimer Christ, on peut dire, ouais, on peut revêtir cet habit de compassion, on peut faire des actions de grâce autour de nous. Mais si on ne les fait pas pour Christ, alors ce qui en sort ne sera pas Christ. Il n'y aura pas Christ. Il n'y aura pas la vie de Christ. Vous pouvez faire ces choses-là, vous savez, vous pouvez faire ces choses pour vous. Et c'est l'exemple que j'ai marqué aussi. Alors que maintenant, comme vous savez, je suis responsable de la jeunesse et c'est aussi un rôle important. Et Dieu vraiment sonde mon cœur depuis que je suis là. Et chaque chose que je fais, j'ai des comptes à rendre, comme chacun de nous, bien entendu. Mais moi, je suis exposé. donc d'autant plus je dois faire, mes seigneurs, sonde mon cœur. Et vous savez, j'aurais dit il n'y a pas très longtemps, parce que comme vous le savez, on parle de la pureté. Et on parlait du cœur pur. Et ce cœur pur, c'est ce cœur qui vient devant Dieu et qui dit, mais Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que mon cœur revêt les habits du chrétien, mais au fond, il n'est pas pour toi. Au fond, il est pour moi. Au fond, vous savez, des fois, c'est ce que j'aurais expliqué. J'aurais dit, pendant ces deux années, j'ai pris le même exemple à Summit, dans l'école que j'ai fait. C'était la course de qui est le plus chrétien, qui ressemble le plus à ce jus d'orange, qui a le plus de compassion, en tout cas du moins en paraître, qui c'est qui prie le plus, qui c'est qui a le plus d'amour, qui c'est qui pardonne le plus. Mais au fin de compte, on faisait ça simplement pour nous. En fin de compte, on fait ça pour que les gens disent « Waouh, vous avez vu, Nicolas, il pardonne. Yes. C'est super, il a pardonné. D'accord, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas pour Christ. Ce qui va sortir ne sera pas Christ. On ne va pas pouvoir connaître Christ. Est-ce que vous comprenez que le vivre en Christ, c'est pour faire connaître Christ ? C'est que lorsqu'on est vraiment en lui, lorsqu'on vit pour lui, alors Christ peut se révéler. Alors Christ vraiment, alors on va vraiment avoir le goût. Alors les choses que vous allez faire vont vraiment avoir le goût de Christ, parce que c'est Christ qui va les faire en vous. Et ce ne sera plus pour vous. Combien de fois Dieu m'a interpellé, il m'a dit « Nico, ce n'est pas pour toi. » Paul nous rappelle dans ces versets que notre vie est pour Christ. Peu importe ce que nous faisons, peu importe le métier, la tâche que Dieu nous demande de faire, nous le faisons non pour obtenir la faveur des hommes, mais pour l'héritage que Dieu nous réserve. Et vous savez, là, ça m'a aussi interpellé, alors que j'arrive sur la fin du message. Peu importe ce que nous faisons, et Dieu, on va recevoir son héritage. Peu importe votre tâche, faites-le pour Christ. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez caissière, que vous soyez banquier, que vous soyez astronaute. Je ne porte pas un nœud papillon pour me dire, ouais, il est beau avec ton papillon, son nœud papillon. Non, j'ai voulu mettre un nœud papillon parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas mis un. C'est tout. Mais c'est tout. Mais ce n'est pas mon nœud papillon, ce n'est pas mon apparence qui va faire que je suis en Christ. Ce n'est pas tout ce qui est marqué dessus qui va faire que dedans, il y aura vraiment Christ. Est-ce que dedans, il y a vraiment Christ ? Est-ce que je vis pour Christ ? Est-ce que vraiment je vis pour Christ ? Est-ce que je regarde à Christ ? Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Luc nous a parlé, je vous ai dit, de connaître sa volonté, de grandir en maturité. Cette maturité, c'est de réaliser que notre vie, elle est pour Christ. Et que tout ce qu'on fait, c'est pour lui. Et que tout ce qu'on a reçu, de toute façon, vient de lui. Comme on disait, que tu sois intelligent ou pas intelligent, que tu sois physiquement d'une certaine manière ou d'une autre, mais ça n'a pas d'importance pour Christ, du moment que vous vivez pour lui. Et que ce que Dieu vous donne comme responsabilité, vous le faites pour lui et pas pour les autres. C'est ce que Dieu vous demande de faire, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Pour conclure, je dis, vivre en Christ, c'est passionnant. J'ai marqué, c'est passionnant. Cela nous amène à changer de regard. On change de regard. On ne regarde plus, on ne cultive plus le péché. On ne va plus le cultiver. On change de regard. On a les lunettes 3D. C'est trop bien. On voit vraiment les choses de la vie. On voit le cœur de Dieu. C'est trop beau. Moi, j'ai envie de les porter. Bon, je vous vois en 3D, mais quand même. Mais là, c'est quand même encore un peu différent. C'est passionnant. On peut délaisser le péché parce qu'on ne regarde plus le péché. Vous avez cette nouvelle nature. Et Romain est dit, vous êtes devenu esclave de la justice. Et ça sera pour une autre prédication, mais vous êtes esclave de la justice. En fait, ce que vous faites, c'est que la justice, vous cherchez à faire que ce qui plaît à Dieu. Parce que vous êtes enraciné en lui, alors votre fruit va avoir le goût du jus d'orange, mais en plus, ça sera du jus d'orange. Parce que c'est Christ qui sera dans cette brique. Ça sera Christ qui va sortir de vous. Et c'est ce que Dieu veut. Lorsque vous allez à un endroit, il faut représenter Christ. Comme c'est Marc, vous le représentez, pas simplement sur l'habit, mais sur l'intérieur. Vivre avec Christ, c'est passionnant. Vivre en Christ, c'est passionnant. Vivre pour Christ, c'est passionnant. Vous pouvez délaisser, vous regardez ce que Dieu aime. Vous délaissez le péché, vous cultivez l'amour qui est la nature de Christ. Vous allez cultiver cet amour, ça va grandir. L'amour entre nos frères et sœurs va grandir. Et moi, je rêve de voir des gens qui s'aiment vraiment. Même quand on ne sent pas bon, on va quand même se faire un hug. Il dira, ah, ça fait plaisir de te voir. Mais c'est vrai, c'est des choses, vous rigolez, mais c'est la réalité. Ainsi, il devient simple de le faire connaître. Parce que c'est plus nous qui vivons, mais c'est lui, comme on le sait. C'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Il le fait simplement. On n'a pas besoin. Mesdames et messieurs, rappelez-vous que Dieu a mis sa nature en vous. Rappelez-vous qu'il souhaite que vous portiez ce fruit de vie. Il nous a créés pour une seule chose, afin qu'on le fasse connaître pour qui il est. Tout comme Jésus était en son Père, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on soit en lui, afin qu'on puisse se faire connaître autour de nous, pour qui il est. Pour qui il est. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous laisser juste cette réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui je revais vraiment ce regard ? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, je revais ce vêtement ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment Christ que je regarde ? Est-ce que mes motifs sont pour Jésus ? Est-ce que ma vie est pour Jésus ? Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas comment vous bataillez avec vos plantes, avec le péché, mais revêtez Christ, allez dans sa parole, comme il disait, connaissez-le, demeurez enraciné en lui, et ces choses-là vont changer, vous ne regarderez plus le péché. Et l'amour, cet arbre qui représente Dieu, il va grandir, et de cet amour, toute chose toutes les choses, la compassion, la bonté, le pardon, vont être naturelles. Parce qu'elles partent de l'amour. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, et comme je disais aux jeunes, et je pense que c'est là où Dieu m'amène de plus en plus de parler de son amour. Parce que toute chose est fondée sur l'amour de Dieu. Si nous sommes là, c'est que par son amour. Si tout est autour de nous, c'est que par l'amour. Alors rappelez-vous que vous vivez en Christ, ce n'est pas par votre force, mais c'est lui qui le fait à votre place. Merci.